Merci pour votre présentation très intéressante. Moi, j'ai une question, deux questions qui sont un petit peu liées. Si j'ai bien compris, vous avez parlé de l'effet de levier de l'agence et vous avez évoqué finalement un budget global, une intervention de l'ordre de 2 milliards d'euros, si j'ai bien compris. Moi, quand je fais la somme rapide de tout ce que vous avez évoqué, les 10 milliards de la Cité Tech, les 2,4 milliards de Rafat, etc., etc. J'ai l'impression qu'on est plutôt de l'ordre de 15 milliards, donc comment se gère le delta? Et deuxième question, et peut-être que ça permettra de répondre à la première, vous avez été très rapide sur ce fameux partenariat. Je voulais savoir un peu plus comment ça se passait, notamment vis-à-vis des entreprises. Oui, pardon, Elisabeth Gaillard, je suis directrice marketing de Colas, constructeur de routes et de voies de chemin de fer dans le pays notamment.
Oui, bonjour monsieur Sylvie Rousseau, qui était des beaux présents au Maroc d'ailleurs. Mais pas c'était dans les partenaires. Je vous dirai pourquoi. Dans les indicateurs de développement humain et social, vous avez donc cité les indicateurs d'accès aux services. Je voulais savoir si vous aviez également des indicateurs d'effet, c'est-à-dire par exemple le taux de scolarisation, élévation des niveaux de formation, amélioration du niveau de santé par exemple. Je vous remercie.
Sandrine Netzol, je viens de la métropole de Strasbourg. En gros, on a des partenariats avec Fès, dans une autre partie du Maroc. Ma question porte sur la répartition des richesses qui sont générées. Est-ce qu'il y a des systèmes de péréquation au niveau de l'ensemble du Maroc quand on a des programmes de développement de cette importance dans le Nord, ou est-ce que ça reste une richesse qui restera en fait dans la région nord de Tanger environ.
Magali Castex, de Grand Paris Aménagement. Alors, moi, c'est vraiment la question environnementale en fait, qui me pose question, parce qu'on en parle à chaque fois un peu dans les détours, mais sans voir ce que ça... Enfin, comment vous comptez conserver ce patrimoine dont... Il est exceptionnel, parce que c'est vrai que quand je vois des projets de 2000 hectares réalisés en 10 ans, ça me paraît enfin, difficilement compatible avec notre conception, en tout cas française, de ce qu'on met derrière les post-it, l'impact.
Patrick Falcone de l'Office national des forêts. En venant depuis Tanger, j'ai été surpris par... je vais dire un vita, c'était pas le bon mot, mais une organisation assez diffuse. Je voulais savoir si, avec tous ces projets, est-ce qu'il n'y a pas une planification spatiale et avec comment vous prenez en compte les composantes environnementales du développement. Merci.
Bonjour. Bonjour, Victor Magopon, Société Premier Conseil. Alors moi, ma question, elle concerne l'électrification. Vous avez dit qu'en 10 ans, elle était passée de 37% du territoire à 99%. Et donc, la question, c'est quelles sont les infrastructures que vous avez mises en place, quelles sont les sources d'énergie, et puis comment tout ça a été fait. Parce que ça semble assez spectaculaire.
Je commencerai par la question de l'effet de levier. Alors, on a fait le delta, mais il y a les 20 milliards d'euros entre 2003 et 2015. Mais si on fait le delta depuis 1996 jusqu'à 2016, donc sur les 20 des dernières années, en ajoutant delta des projets réalisés par l'agence et les partenaires versés à l'agence, on dépasse de loin ce montant, mais c'est vraiment l'accélération des milliards, et c'est surtout entre le 2005 et 2015, donc le budget est concentré. Partenariat, vous savez, le partenariat, c'est aussi un exercice que nous avons appris et que nous avons que vous voulez renforcer au cours des années avant chaque ministère, pourquoi a été créée l'agence, le catalyseur de développement, déjà une vision horizontale, parce que la plupart travaillaient d'une façon verticale. Dans l'aménagement de territoire, dans la planification de certaines infrastructures, trouver des aberrations. Donc, conformément à la carte scolaire, il fallait construire une école dans un terrain et que la première route rurale passait à 10 km. Déjà, cette coordination, ce partenariat, cette vision horizontale permet aussi d'avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'émission de l'agence, catalyser, fédérer, coordonner, faire le montage financier, c'est déjà aussi cette vision horizontale et cet apprentissage et ce renforcement du partenariat. En ce qui concerne les indicateurs, bon, j'ai donné les indicateurs aussi, c'est-à-dire qui sautent aux yeux, mais aussi au niveau des écoles, au niveau de la santé, déjà, on était un médecin pour 11 000, mais pour revenir à un médecin pour 4200, plus ou moins, dans l'indicateur de la santé. Et l'alphabétisation est à 55, on est supérieur à 55 au début des années 2000, on est à 35 maintenant. Et déjà les écoles, surtout les écoles primaires, sont partout réparties dans même les droits. Et donc cet axe, l'agence participait aussi à l'amélioration de la scolarisation via les achats des minibus scolaires, très important. Je ne voulais pas détailler certains axes de l'agence, mais déjà l'agence a équipé plus de 230 minibus dans la région, qui a permis surtout de scolariser la fille en milieu rural. Et déjà le pourcentage de scolarisation est passé de 32 à déjà 64, mais on est sous normalement de la moyenne, on devrait atteindre les 80-90 à l'horizon 2022. Bien sûr, tout à l'heure, lors de mon introduction, je disais que le projet Tangier-Med, que la vision royale pour le développement du Nord, c'est une vision nationale. Et que c'est le motif du développement. Et déjà, grâce aux infrastructures portuaires, aux infrastructures routières, nous avons pu avoir la confiance de PSA, Peugeot, c'est un ami qui va développer une usine à Kénitra, donc à 1h30 du port, grâce au port, aux infrastructures, et que nous avons eu aussi Haïti, le groupe chinois, pour développer une nouvelle ville à 10 minutes de Tanger. Et c'est, tout ça, c'est une dynamique. Et je pense que le Maroc, connu au niveau national, dans cette région, un développement accéléré. La région de Meknès, il y a de l'agroalimentaire. La région de Casablanca, il y a de l'industrie, le offshoring. Une plateforme financière pour l'Afrique. Donc, le Nord, il a un impact direct sur la région, mais il a vraiment aussi un impact direct sur le reste des régions du Royaume. L'environnement, oui. Tout à l'heure, je disais la biodiversité. C'est vrai, il y a un équilibre à trouver. C'est un défi quotidien. Je n'ai pas cité tout à l'heure, mais il y a 20 sites d'intérêt biologique et écologique dans la région. Il y a des parcs naturels dans la région. Il y a trois parcs naturels. Il y a un parc national. Il y a une biodiversité. Et aussi, c'est très sensible. Il y a le problème, parce que c'est une zone montagneuse. Il y a beaucoup d'érosion. Il y a beaucoup de pression sur le territoire. Donc, c'est un équilibre à trouver. Ça, c'est un des défis, c'est cet équilibre entre développement industriel et protection de l'environnement. Et je pense qu'on est sensibilisés. vous, Français, nous, on a analysé tous les deux COP21, COP22, continuité, donc on est sensible à ce point. Et c'est pour cela qu'on est en train de faire sortir toutes les activités industrielles de Tanger. On est en train d'améliorer le cadre de vie au centre de Tanger pour un peu développer le tourisme et le tourisme écologique. Et on va monter à la Chaoune. Donc vraiment, la nature, c'est une des potentialités de la région qu'il faut garder, c'est sûr. Et on est conscient de ce déséquilibre actuel. Planification spatiale, ça c'est vrai. Ça c'est un des... Je ne voulais pas donner un cours de développement, ni un cours d'aménagement de territoire, mais c'est vrai. La concentration de la population, c'est un atout normalement. Déjà, je vous donne des exemples et je répondrai par la même occasion à la question de l'électrification rurale. C'est que, normalement, l'électrification rurale, c'est par câble, donc c'est l'électricité normale. Il y a des exemples d'énergie photovoltaïque, d'énergie éolienne, mais la population n'aime pas, ils n'aiment se brancher sur le réseau national. Donc on est passé, normalement, lorsqu'on a commencé la réalisation du programme d'électrification rurale, la moyenne était de 700 euros par foyer. Et on est passé de 34% à 74-75%. Et puis on est monté actuellement à 4000 euros pour électrifier les zones les plus éloignées. Et ça continue toujours parce qu'il y a de nouvelles installations, de nouvelles constructions, etc. Donc c'est vraiment c'est un problème parce que... Et ce 4000 euros, on le trouve surtout dans le Nord. Malheureusement, parce que vous l'avez vu sur la route, les constructions, l'urbanisation est éparpillée. Parce qu'il y a un point important. Malheureusement, ces dernières années nous fait défaut, mais c'était un des points forts du Nord, c'est l'eau. Je ne sais pas si vous avez visiter OZZ, donc c'est des agglomérations qui vivent en communauté, qui vivent ensemble pour rationaliser l'eau. Dans le Nord, il y avait de l'abondance de cette ressource. Malheureusement, ça fallait, on a des difficultés. Le Nord était le réservoir hydrique pour le royaume. Donc il y a l'eau, la population se permet de vivre n'importe où. Donc il y a beaucoup de ressources. Beaucoup de sources d'eau. Mais ça, pour réaliser une école dans un endroit, pour réaliser une route, ça coûte très cher. Ça, c'est aussi un des points faibles que dans le Nord, que les infrastructures coûtent plus cher dans le Nord.
Bonjour, Xavier Auclair, EDF. Trois questions. La première, est-ce que les objectifs visant à la création de l'agence, qui était donc de permettre un développement plus fort et de rattraper l'écart avec en particulier la région centrale du Maroc, a eu ses premiers effets? Est-ce que le différentiel de développement s'est réduit? Et en quelle mesure, en fait, vous constituez les deux locomotives, je dirais, du développement économique global du Maroc? La deuxième question, elle porte sur la politique de formation et d'éducation que vous avez évoquée. C'est de nature à permettre de répondre aux besoins des entreprises qui viennent s'implanter, à condition qu'il y ait un processus d'adéquation entre les besoins des entreprises et des formations proposées. Alors, est-ce que vous avez travaillé à la mise en place de tels processus d'articulation? Ou est-ce que la population jeune, qui est particulièrement importante et qui est maintenant de plus en plus diplômée, est en fait une ressource qui part à l'étranger du fait de l'inadéquation entre les études poursuivies et les besoins et qui trouve des débouchés en Espagne, en France ou dans les autres pays d'Afrique qui se développent? Et puis la troisième question, elle va porter sur dans les activités qui sont souhaitées, à la fois en matière de développement et de protection de l'environnement, quand on est à Tanger, on voit au loin la décharge avec toute la fumée qui s'en échappe. Est-ce que vous avez une politique de valorisation des déchets qui permettrait de concilier à la fois le développement et de transformer les déchets en ressources, de protéger l'environnement et puis d'avoir ainsi de nouvelles ressources énergétiques disponibles alors que les problèmes liés à l'eau se développent? Merci.
Bonjour, Florence Henry, groupe La Poste. Vous nous avez dit, voilà, vous nous avez dit au début de votre intervention que la population de Tanger avait doublé en 10 ans, 500 000 personnes. Est-ce que vous avez fait des projections sur l'évolution de cette courbe? C'est-à-dire que si elle est la même, ça veut dire qu'on a 1 million de personnes en plus d'ici 10 ans. Comment est-ce que vous avez intégré ça dans vos politiques? Donc ça, c'est une première question sur tous les aspects, hein, que ce soit effectivement par rapport à votre indicateur qui mesure les 5 points, hein, en matière d'équipement, en matière de formation, surtout qu'on s'est fait une population très jeune. Donc comment, si vous avez 1 million de plus de personnes d'ici 10 ans, comment vous avez intégré ça? Et puis la deuxième question, je voudrais revenir sur le tourisme. Vous avez dit que c'était une de vos ambitions, pour autant, on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement de stratégie en matière de développement du tourisme, ou en tout cas que ça passe un peu au second plan par rapport à tout ce qui est développement économique. Voilà.
Bonjour, Frédéric Moulin, Gertegaz. Moi, j'avais une seule question. Est-ce que les sujets d'immigration vers l'Europe et les sujets de la culture du cannabis que vous avez évoqués tout à l'heure sont des sujets de déséquilibre important? Et si oui, comment est-ce que vous les prenez en compte dans votre stratégie de développement, notamment de rééquilibrage avec les territoires ruraux?
Oui, bonjour, Julia Jordan, je travaille au Commissariat général à l'égalité des territoires, notamment l'Exatar que vous avez cité tout à l'heure, et qui s'occupe également de la politique de la ville. J'ai une question qui concerne à nouveau le. Si vous pouviez nous détailler les partenariats. Vous avez parlé de la réunion fondatrice de 93, vous avez cité l'Union européenne notamment, mais j'aurais bien aimé entendre un peu plus de détails sur effectivement. Je dirais les partenariats qui sont développés à la fois d'un point de vue économique avec peut-être les acteurs de la zone euromède, mais également institutionnels. Et puis on sent bien effectivement notamment le projet qui nous a tous beaucoup marqué hier de présentation de la ville nouvelle avec le partenariat avec les Chinois. Comment finalement il y a aussi d'autres partenariats plus loin que les acteurs les plus proches et plus traditionnels, je dirais, de la coopération européenne.
Je reviens un petit éclaircissement sur Schrappat, parce que finalement, on ne sait pas exactement où en est ce projet. On a l'impression que tout avance à une très grande vitesse dans cette région. Et quel est au fond le terme prévu pour la finalisation de cette ville nouvelle et quelle en serait l'ampleur?
Donc déjà l'objectif a été atteint et dépassé de loin, parce que déjà on voulait que la région du Nord ressemble aux autres régions du Royaume et faire un équilibre des indicateurs de développement. Maintenant il est devenu le locomotive de développement. Et normalement ça devait être, parce que son positionnement sa proximité avec l'Europe, les 14 km, la porte des potentialités et une histoire, une base intéressante, ça devait être le développement depuis très longtemps. Donc l'objectif a été atteint et dépassé. C'est vrai aussi, j'ai terminé ma présentation par parce qu'il y a toujours de l'avenir, donc simplement pour exister en tant qu'agence, il faut aussi lever des défis, lever des questions. Et un des points importants, c'est de, tu parlais tout à l'heure de ressources humaines et de la formation qui des ressources humaines, des formations qui ne suivent pas ce développement, que avec le développement de projets industriels dans notre région, on aura l'effet contraire, c'est-à-dire des migrations, ou bien des gens, parce que quand j'ai attiré la population jeune, active, formée de tout le Royaume, maintenant on aura le sens contraire, donc des gens qui vont revenir chez eux, donc on aura déjà un des défis, c'est essayer d'avoir cet équilibre. Formation aux ressources humaines à l'horizon 2020-2022. Plus ou moins, ça c'est aussi c'est un problème. La formation ne suit pas malheureusement. On est toujours en train de former dans des métiers ou bien dans des secteurs qui ne suivent pas le développement industriel du Maroc qui est basé maintenant sur l'aéronautique, sur l'automobile. On a fait des efforts, il y a des écoles, il y a des formations. Il y a le point fort aussi logistique. On a développé beaucoup de formations. Le Maroc est un pays de logistique. Il doit être un pays de logistique. D'ici, c'est une porte dans les deux sens. Donc, c'est une plateforme logistique pour l'Afrique. Et je pense, avec la vision royale de s'étendre vers les pays africains, déjà, c'est une ligne de développement, c'est une ligne, une vision à développer. Mais c'est un des points, noir, pas noir, mais un des contraintes de ce développement, c'est les ressources humaines. Dans tous les sens, c'est-à-dire l'aménagement de territoire, la régionalisation, le développement industriel et le développement des autres secteurs. La décharge de Tanger, dans 2 ans, vous allez plus voir si on aura l'occasion. Privilège de vous avoir dans 2 ans, cette décharge va être déplacée. Il y a déjà un site qui est en train de développer et qui respecte les normes internationales d'exploitation, de rationalisation et d'utilisation des déchets. Donc la décharge de Tanger, ce serait un parc. Charge dans 2 ans. Ça rentre dans le cadre du projet Métropole, je pense que vous avez vu hier le programme de développement. Un des points importants, c'est de développer un parc à Tanger Bédia où se trouve la décharge de Tanger. C'est vrai, la population sera. Ça, c'est aussi quand même. On le sait, on ouvre une parenthèse de développement accéléré, la croissance démographique. Est-ce qu'on est dans la bonne voie, c'est-à-dire créer des métropoles? Déjà, on est 1 million. Il y a déjà l'insécurité. Est-ce que dans le développement harmonieux, dans le développement, une vision de l'aménagement de territoire, il faut créer des pôles urbains, c'est-à-dire des villes de taille moyenne qui ne dépassent pas 800 000. Ça aussi, c'est un sujet à débat au niveau national. C'est pour cela que, avec la nouvelle ville, on est en train de faire sortir même les quartiers ouvriers de Tanger, donc on est en train de séparer. Et Tanger à notre ville, Tanger Tech. Charafat aussi, malheureusement, ça avance, mais ça avance lentement, il y a eu la crise immobilière. Donc, mais normalement, Charafat doit absorber déjà une population très importante de Tanger, limitrophe de tous les projets de Parc Saint-Jean, toutes les industries. Et c'est normalement, ça devait développer une nouvelle vie à 17 km de Tanger. Le tourisme. Vous savez, le tourisme, c'est vrai, le tourisme, je ne vais pas vous donner un cours, mais c'est lié à plusieurs choses. Déjà, lié à la tradition, ce qu'on veut, lié beaucoup à la politique, lié à la mentalité, mais c'est vraiment, il y a un axe où on peut développer, c'est l'industrie, c'est pour ça que le tourisme, c'est un pays touristique, le Maroc, depuis... c'est un pays accueillant, stable. On a eu toujours, on a eu plusieurs civilisations, parce que, et plusieurs invasions. Peut-être qu'on a eu trop de monde, c'est trop. Donc on était toujours un pays accueillant et touristique. Mais c'est vrai. Mais je pense que c'est un problème international maintenant, avec la crise d'instabilité, surtout l'instabilité dans les pays limitrophes au Maroc. Bon, c'est pour cela que personne n'ose développer ce secteur. Moi, je pense. Mais c'est vrai, nous avons beaucoup de potentialités. L'immigration et le cannabis. Tout le monde, au départ, lorsqu'on a créé l'agence, on croyait qu'on a créé l'agence pour ces deux. L'immigration et la contrebande du cannabis. Alors que dans les textes de la création, nul n'est cité ces points. Pourquoi ? Déjà, l'immigration clandestine, nous, on subissait l'immigration et ces drames dans la Méditerranée. Parce que, déjà, les gens du Nord, vous voyez, pour commencer, les gens du Nord, comme vous avez toujours Méditerranée en face, ils savaient nager. C'est un point important. Donc, vous ne pouvez pas se noyer dans la Méditerranée. Ou bien un pourcentage moins important. Donc l'immigration clandestine venait de tout le Royaume, il venait de l'Afrique subsaharienne. Donc nous aussi on subissait ce fléau de l'immigration. Et on continue de subir. Malheureusement, on a toujours ce problème. En ce qui concerne le cannabis, je ne voulais pas. Je pense que parmi vous a suivi il y a une semaine une émission M6 sur le cannabis, sur la drogue, etc. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi. Mais aussi c'est un fléau que nous aussi on subit. Et pour vous donner des chiffres, des comparaisons, c'est que à cause de la culture de cannabis, le Nord perd 1000 hectares de forêt par an. C'est énorme. Si on fait un bilan sur les 40 dernières années, 75-2015, et je vous invite à visiter le site de l'APDN. Il y a des études sociologiques que nous avons réalisées, des études sur ce fléau du cannabis. La forêt du Nord a été détruite pour un pourcentage de 75% sur les 40 dernières années. C'est énorme. La population sur le plan sociologique a été détruite. Il y a beaucoup d'analphabétisation, beaucoup d'instabilité, beaucoup de divorces. Beaucoup d'insécurité et beaucoup de violence. Nous avons réalisé des études parce que, avant, les Espagnols disaient que 40% des Marocains venaient du cannabis et que le Maroc a 560 000 hectares de cannabis dans le Nord. Même le Sceau, nous n'avons pas 560 000. Donc en 2003, 2004, 2005, jusqu'à 2010, on a réalisé des études annuellement sur le cannabis. Donc en 2003, on a eu 134 000 hectares. Tu as des études, je vous invite à visiter le site, il y a des études en PDF que vous pouvez télécharger. Donc c'était 134 000 hectares. Cette superficie est descendue maintenant à 49 000 hectares. Les recettes générées par le cannabis, c'est 2 milliards d'euros par an. C'est 60 milliards en Europe. Le prix du cannabis, qui coûte 1 dirham dans le nord du Maroc, coûte jusqu'à 65 euros au Danemark. Et 78 plus haut. Qui bénéficie du cannabis, c'est les intermédiaires. Les intermédiaires n'ont pas de nationalité. les Marocains, les Français, les Espagnols, les Arabes, les Amériques latines. Et l'agriculteur, la moyenne, en bourre et en irrigué, c'est entre 500 euros par an et 2000 euros de recettes. Et si vous faites une comparaison avec toutes les difficultés et l'impact négatif qu'il y a eu sur les familles, sur l'espace, sur l'environnement, ça ne couvre même pas de 5% de recettes. Donc, déjà, l'agriculteur au niveau local souffre de ce fléau. Historiquement, c'est vrai, historiquement, le kif, on l'appelait le kif, et la régie de tabac s'appelait la régie de tabac et le kif. Et le kif, c'était le kif naturel, en herbe, consommé par des artisans, par des agriculteurs, par des ouvriers, c'était normal. La transformation du kif en cannabis, c'est les Européens qui nous ont apporté ça, dans les années 70, à l'ère hippie. On ne connaissait pas la transformation du cannabis. On la consommait en herbe sèche. Donc vraiment, nous aussi, on subit. Donc, il y avait près de 3000 hectares au départ dans la zone du Fema, le Seyma. Donc, ça se développait. Tant qu'il y a la demande, il y a l'offre, malheureusement. Mais vraiment, c'est un pays. Bon, on a eu un débat de ces dernières années de légaliser le cannabis ou bien ne pas légaliser le cannabis. Si légaliser le cannabis, pourquoi ne pas le planter aussi dans des zones à potentiel agricole, dans le Rhin, le Cous et dans le Sousse. Ce n'est pas une spécificité du Nord. Le chanvre peut se développer dans toutes les régions. Malheureusement, on a aussi un impact négatif, c'est que maintenant, on a développé, on entre un peu dans les détails, simplement mon côté chimiste, il y a le THC, ça c'est la drogue, c'est le THC. Mais maintenant, avec la transformation de la plante, on a entré une plante afghane, une plante pakistanaise, et ça c'est très 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 dangereux pour les autres. La vie, pour les esprits des jeunes, on a développé aussi des comprimés, on a développé... C'est vraiment un fléau qu'on subit aussi, nous, au Maroc.
On va y revenir
en fait, ce mail plus largement. Ce qui concerne, c'est vrai, le partenariat, tout à l'heure, je ne voulais pas entrer dans les détails, dire que j'ai fait une parenthèse, j'ai passé rapidement, parce que c'était une demande de l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'ils voulaient aider. Non. Si on fait un bilan de l'appui financier direct pour l'agence dans le nord des pays européens, ce montant et les montants d'État juste présenté tout à l'heure, ça représente même pas 5%. Donc on est loin du 30. Et surtout de ce qui présentait l'Union Européenne. Si on est déçu, on est déçu de l'Union Européenne. Par contre, on a eu beaucoup d'appui de nos deux partenaires privilégiés, à savoir la France et l'Espagne. C'est-à-dire ce 5%. Les 90% de ces 5% sont venus de l'Espagne et de la France. Et nous avons quelques partenariats, quelques coopérations. Déjà l'Union européenne, les procédures, il faut se lever tôt, il faut rester tard. Et à la fin, ils vous disent que la date est dépassée. Parce que le marché doit passer jusqu'à Bruxelles pour être approuvé. C'est difficile. J'ai eu beaucoup d'occasions de travailler avec l'Union Européenne. Donc pour lancer un appel d'offres, il faut 8 mois. Nous sommes le 4 avril. Je suis à 170 appels d'offres cet année. Donc si je compte Donc pour le, si je travaille avec l'Union Européenne, je devrais rester 130 ans pour avoir un 170 après d'autres. Ça c'est des réalités. Je vous invite à consulter le site de l'agence, entrer dans l'appel d'offres et voir les numéros des appels d'offres pour vous montrer que jusqu'à présent on est arrivé à 170. Je pense que... Mais la coopération, c'est vraiment, c'est aussi c'est un point, c'est un des points que normalement l'agence a été créée pour développer cette coopération. Mais...